Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et en 2016, je me suis lancé dans la fascinante aventure du freelancing. Quelques années plus tard, j'ai décidé de partager publiquement mes apprentissages sur cette voie, ce qui nous mène donc à cet épisode et les contenus et expériences pédagogiques que je propose aux indépendants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurore B, avec qui on partage cette volonté de montrer les coulisses de notre activité pour cette superbe conversation que tu t'apprêtes à écouter. Aurore est illustratrice, mais quand on regarde son activité, on voit surtout qu'elle produit de plus en plus de contenu sur l'envers du décor de son business, où elle raconte tout ce qui se passe, tu peux dessiner avec elle, enfin bref, elle montre quasiment tout ce qu'elle fait. Et dans cet épisode, on décortique l'évolution de son activité, de ses premiers clients jusqu'à sa vision et les stratégies qu'elle imagine pour les prochaines années. On offre tous les deux un regard aussi sur nos coulisses et pourquoi ça nous parle autant de construire notre business en public, qui est le titre de cet épisode. Tu verras, c'est vraiment ce que fait Aurore. À ce sujet d'ailleurs, je partage régulièrement mon retour d'expérience précis et détaillé sur ma propre évolution, dans mon business, dans mon état d'esprit aussi, face à toutes les nouvelles étapes qui m'attendent sur la route. Je partage tout ça dans ma newsletter toutes les semaines. Et si tu veux être plus proche de ce que je vis et de ce que je partage sur l'indépendance et le freelancing, vraiment, c'est le meilleur endroit. Tu peux t'y abonner, si tu le souhaites, sur thomasburbidge.com/newsletter. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et on se retrouve ensemble à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Aurore.
Merci, salut Thomas.
Très content de te recevoir. J'avais essayé de te faire venir intervenir l'année dernière, ça s'était pas fait, mais du coup un an plus tard on est là et je suis très content de t'accueillir. Il y a plein de sujets dont j'ai très envie de parler avec toi et du coup je suis très content de te poser la première question pour introduire tout ça, qui est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, du coup, je me représente juste rapido, ceux qui ne me connaissent pas.
Yes, vas-y.
Du coup, je suis Aurore B sur les réseaux BY et je suis indépendante depuis 3 ans et demi maintenant. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, pourquoi je suis devenue indépendante? Alors, c'est plein de raisons, mais c'est surtout que, bah, il y a 3 ans et demi, j'ai eu mon diplôme. Et après, je suis partie faire un stage à l'étranger. Et en revenant en France, bah, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé un CDI, trouvé un poste. Bah, du coup, j'ai fait des études de graphisme, du coup, en tant que graphiste dans une boîte de com, quelque chose comme ça. Et en final, je me suis dit, je me mets en freelance, juste histoire d'attendre d'avoir un vrai job, comme disaient mes parents, un vrai job.
Un vrai job, et, le fameux.
Ouais, c'est ça, avec des grosses guillemets. Mmh. Et au final, j'ai fait un tout petit peu de freelance. J'ai dû envoyer même pas 2 CV. J'étais vraiment pas motivée à trouver un poste dans une boîte. Et à côté, bah, l'émission freelance, j'en avais une par-ci, une par-là. Bon, je le dis tout de suite, je faisais n'importe quoi au début. Je prenais vraiment tout ce qui passait, surtout sur la plateforme Malt.
Ouais.
Et au final, bah, ça s'est un peu enchaîné et je me suis dit, bah, essayons, hein, du moment que ça me rapporte un petit peu d'argent, peut-être que c'est une bonne piste à creuser. Donc, c'est comme ça que je suis devenue indépendante. Donc, c'est un peu par hasard et surtout par rejet du CDI de non, j'ai la flemme d'aller ouais. voir dans une agence de com ce qui s'y passe. Et, donc, ça n'a pas du tout été une réflexion ou vraiment quelque chose que je voulais absolument. Je savais que je voulais mettre en freelance à un moment ou à un autre. Mais ouais. pour moi, ça n'aurait été jamais juste après mes études.
Ok. Et c'est marrant, du coup, tu dis que tu as commencé il y a 3 ans et demi, mais j'ai l'impression que du coup, dans ça, tu ne comptes pas les toutes premières missions que tu avais faites à côté de tes études en 2016, je crois. La première fois que tu vas sur Upwork à l'époque.
Ouais, c'est ça. Bah non, je ne le compte pas forcément parce que ce n'est pas des missions qui se sont bien passées, déjà.
Ok.
Et du coup, c'était vraiment à côté des cours et je considérais même pas ça comme un job. Pour moi, c'était un peu de l'argent de poche que je faisais. Et comme ça s'est mal terminé, ça a coupé court très rapidement. Ils m'ont dit, bon, bah, on te paye ça et puis basta, ciao. Et du coup, dans ma tête, c'était même pas du freelancing, quoi.
Ok, ouais. C'était pas une expérience qui validait, ah, c'est cool, j'ai envie de faire ça. C'était presque le contraire, du coup.
Ouais. Non, je me suis bien fait exploiter et je savais même pas comment gérer ça. Enfin, le freelancing, comme je l'ai dit, c'était un vrai hasard. Je me suis jetée dedans sans du tout savoir ce que j'allais faire, ce que je devais faire et j'avais zéro expérience vraiment bah, dans des vrais jobs, on va dire, de graphiste et je savais vraiment pas trop. Je faisais ce qu'on me disait, quoi. Donc c'était plus exécutant que vraiment DA ou graphiste, comme je disais mon diplôme. Ouais. Et au final, c'est que 6 mois après où je me suis vraiment posée en me disant, bon, là, je me fais toujours pas un salaire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je creuse plus dans le côté freelancing, mais je le fais sérieusement? Ou j'essaye vraiment de trouver un job avec un CDI et là, j'aurais pas à m'en soucier, quoi.
Et j'ai envie de creuser ce que tu entends par le faire sérieusement. Mais juste avant, j'aimerais bien savoir, du coup, quand tu te lances et que tu te dis, bon, bah, on va aller faire quelques missions, expérimenter ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ces 2-3 mauvaises expériences de pendant des études qui pèsent un peu en mode... je me demande si ça n'avait pas laissé une trace, du coup, si ça s'était mal passé.
Bah si, forcément, parce que surtout que quand on a... J'avais quel âge? 22 ans, un truc comme ça, et que la première expérience se finit en pleurant au téléphone, non, ça n'avait vraiment pas envie de continuer. Mais effectivement, en fait, le fait... j'avais vraiment, vraiment pas envie d'aller dans un job en CDI. Et du coup, j'avais pris 2-3 missions et j'avais réussi à trouver une cliente qui m'avait un peu rassurée en me disant, bah voilà, fais juste ça ou juste ça, en me disant exactement quoi faire. Et au final, j'avais repris un tout petit peu plus confiance en moi en me disant, bon, ça va, je suis capable de le faire. Mais ça veut dire que la première année de freelance que j'ai fait de l'exé. Vraiment, c'était nul dans le sens créatif. Je faisais juste de la mise en page ou, de la déclinaison et tout, mais rien de créa, quoi. C'est que bien après où j'ai des missions de créa qui sont un peu revenues et ça m'a permis de reprendre un peu confiance en moi, quoi.
Ok. Et du coup, est-ce que c'est ce switch-là que t'entends par le faire plus sérieusement, de te dire j'ai envie de commencer à installer ma patte? Enfin, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu mets derrière le fait de dire ok, on va le faire sérieusement maintenant, qu'est-ce que t'as mis en place à ce moment-là?
Bah, déjà, le faire sérieusement, moi, ce que j'entendais, en tout cas, à l'époque, c'était le faire pour gagner assez d'argent. parce que là, je me faisais pas du tout un salaire. Que j'étais toujours dans l'optique, je fais ça le temps d'avoir un petit peu d'argent, juste pour finir les fins de mois et payer ce que j'ai à payer. Mais c'était quand même encore compliqué à l'époque. Bon, ça va que j'étais soutenue financièrement encore un petit peu par mes parents. Comme je sortais d'études, on avait fait le deal, je teste le freelance, mais vous payez mon loyer encore un an. Et là, la fin d'année arrivait, tout ça, et je me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Et donc, le faire sérieusement, ça a été de regarder ce que c'était vraiment être en freelance. Un peu me former. Bon, après, je me suis formée toute seule en regardant, en écoutant des podcasts, en regardant YouTube, en lisant des articles. Et en fait, j'ai découvert un peu tout un monde que je ne connaissais pas du tout et dont on ne vous parle jamais quand vous êtes à l'école.
Tellement jamais.
Oui, ouais, vous évitez vraiment le sujet pour le coup. Et du coup, j'ai découvert un petit peu tout ça et je me suis dit, ah, mais en fait, il y a vraiment moyen que je fasse une vraie activité avec du freelancing, quoi, et de gagner correctement ma vie. Faut juste que je le fasse correctement. Moi, je suis du genre à mettre des coups de pression et à me dire, bon, allez, vas-y, maintenant, tu vas le faire correctement et tu t'y mets à fond pendant 3 mois et au bout de 3 mois, tu vois, quoi. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Et donc, j'ai modifié un peu tout mon profil sur Malte. J'étais que sur Malte à l'époque. Donc, je passais pas du tout par LinkedIn et j'envoyais jamais de mail. J'évitais. Hein. Ouais. J'étais vraiment hyper réticente à tous ces trucs-là. C'est pour
la
ça aussi.
La prospection et tout.
Ça marchait pas trop. Mmh. Ouais, je connaissais pas tous ces trucs-là. Du coup, j'étais juste dépendante de Malte. Et au final, j'ai eu de la chance que je me sois bien positionnée sur la plateforme. Et au final, ça m'a rapporté quand même pas mal de clients. Et du coup, au fur et à mesure, je faisais une mission, puis une autre, puis une autre, puis une autre, avec des missions qui duraient 2 semaines, 3 semaines max. Et du coup, j'enchaînais client par client par client par client, sans jamais poser quelque chose de concret. Mais bon, après, à l'époque, du coup, on était en 2018, mi-2018, fin 2018. Moi, ça commençait à bien monter, à bien fonctionner, et j'étais plutôt contente. Mais là, c'était du coup que du graphisme à l'époque.
Ok. Et du coup, justement, comment... Si on regarde en arrière, et j'imagine il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui en sont dans cette phase de au début quand t'enchaînes l'émission, tu prends un peu ce qu'on te propose par la pression financière, qu'exactement ce que tu décris là, et je pense que c'est le cheminement de beaucoup de freelances au début, ça a été mon cas. Voilà, je pense qu'on passe tous par cette case au tout départ. Comment tu dirais que t'as fait ce switch, ou alors comment t'aurais pu peut-être mieux le faire, mais si on regarde en arrière, de se dire j'ai envie de passer de cette phase où je fais que de l'exécution, je fais que ce qu'on me dit, et va aller vers j'ai envie de construire un projet qui me ressemble davantage et être plus créatif du coup dans ton cas il me semble. C'est quoi ce que t'as mis en place et qu'est-ce qui t'a aidé à le faire ou qu'est-ce qui t'aurait mieux aidé peut-être à l'époque?
Bah après ça c'est un process qui dure encore aujourd'hui hein, de bien définir et de savoir exactement ce que je veux faire.
Donc, ouais, je pense que ça s'arrête jamais.
Ouais, voilà, ça s'arrête jamais, mais c'est vraiment où je réalise de toute façon petit à petit, donc depuis 2018, un peu tous les 3-4 mois en me disant « Ah mais en fait, mon métier c'est ça en tant que freelance et c'est pas ça ». Et du coup, j'essaye un petit peu, on va dire, d'affiner au fur et à mesure des années. Donc même là, après 3 ans et demi, je suis encore en train d'affiner. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et après, à l'époque, du coup, j'ai essayé d'affiner en tant que vraiment, je veux être graphiste et j'ai toujours aimé l'illustration. J'ai toujours fait de l'illu quand j'étais petite, j'ai pris des cours d'illu quand j'étais au collège, au lycée, tout ça. Et j'avais vraiment ce côté créa qui me manquait, en fait, qui a commencé à vraiment manquer dans mes missions, où j'en avais juste assez de faire de la mise en page et des choses qui me plaisaient pas trop. Donc, j'ai essayé de remettre plus d'illustrations dans mon portfolio pour qu'on m'appelle pour ça. Donc, 2019, je n'ai fait que de l'illu. Mais que de l'illu. côté graphisme, c'est-à-dire faire des illus pour des sites web, pour des applications, pour de la com en interne, tout vectoriel, donc quelque chose où il fallait s'adapter à la charte graphique du client. Donc déjà j'avais réussi un gros step d'affinage, donc c'est-à-dire faire que de l'illu dans le graphisme, et après en 2020 j'ai encore réaffiné, mais ça a vraiment été un petit à petit. Mais aussi à l'époque en 2018 quand j'ai commencé, je savais pas que je voulais faire de l'illu, donc le truc est... C'est pas bien, effectivement, de prendre tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas bien, surtout pour nous. Mais c'est bien dans le sens où on teste plein de choses et on voit ce qui nous plaît le plus. Parce qu'effectivement, il y aura tout de suite des choses où on va se dire, à la fin de l'émission, non, mais ça, plus jamais de la vie. C'était horrible. Et il y a des choses où on se dit, ah, bah, ça, je suis plutôt, déjà, je suis bon dans ce que je fais, puis j'aime bien, et ça s'est super bien passé, le client était hyper content. Bah, peut-être que c'est mon truc au final.
Ouais, donc, et tu joues un peu à chaud-froid de tester, quoi.
Exactement. Moi, c'est un peu comme ça, en tout cas, que je l'ai vu et que je le vois un peu aussi. Bah, j'ai plusieurs amis, du coup, depuis le temps qui se sont mis aussi en freelance. Et donc, c'est pas une mauvaise chose de toucher un petit peu à tout au départ, mais bien prendre en compte à la fin de chaque mission, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qu'on referait, qu'est-ce qu'on referait pas, et au final, affiner son offre comme ça aussi, quoi.
Ouais. Du coup, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que le premier pas que tu avais fait, c'est de te dire, si j'ai envie de faire davantage d'ilu, il faut que ce que je montre de mon travail reflète ça, et tu as commencé à réinjecter des choses dans ton portfolio qui montraient ça.
Ah oui, bah, c'est à cette époque-là où je me suis un peu remise à illustrer pour moi, mais au début, c'était l'illustration complètement faite pour ajouter à mon portfolio. De toute façon, j'étais bien consciente que sur Malte, ce que je montrais, c'était ce pourquoi on m'appelait. Ouais. Donc, j'ai juste commencé à faire des illus. Je voyais des sujets qui me plaisaient en regardant Dribbble, des choses comme Beyoncé. Et j'aimais bien. Du coup, je me suis dit, vas-y, je refais le même sujet d'illu, mais avec mon style à moi. Enfin, avec mon style vectoriel, hein, c'était rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je le mets sur mon portfolio. Je fais des faux projets comme quand on faisait à l'école, en fait. Mais avec des choses dont je suis vraiment à l'aise, vraiment capable de faire, et dont j'ai envie que les clients me payent pour, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et je me demande, du coup, si aujourd'hui, avec le recul et ce que tu as fait depuis, du coup, ça fait 2 ans et quelques maintenant, est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais pu faire complémentaire à ça? Parce que du coup, ce que j'entends, c'est tu étais sur Malte, et bah, les gens te trouvent sur Malte, regardent ton portfolio, t'appellent pour ça, donc c'était forcément super logique de mettre à jour ton portfolio. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que tu aurais pu faire autour pour amplifier le message un peu?
Bah, complètement. J'aurais pu déjà essayer de faire un site web complet, parce que je suis même pas sûre que j'avais un site web à l'époque. Faire un LinkedIn, essayer de prospecter, d'avoir un portfolio PDF aussi pour pouvoir prospecter aussi par mail, tout ça. Tout ça, je le faisais pas du tout. Et du coup, la bêtise que j'ai faite, c'est d'être complètement dépendante d'un site.
Ouais.
Et bah, ça m'a valu 2 fois de suite le fait de plus avoir de taf d'un coup. Parce que c'est bien, les plateformes comme ça, mais on peut pas être dépendant que d'un seul canal, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est ça. Avec le recul, maintenant, je me suis dit, en fait, j'aurais dû mieux m'éduquer encore sur ce qu'était le freelancing, et j'entendais bien dans les podcasts et tout qu'il fallait prospecter, mais je me disais, ça sert à quoi? Ça marche très bien, Malte. Non. Grosse bêtise.
Mais c'est trop intéressant. Parce que je pense, tu vois, c'est super, simple, entre guillemets, de tomber dans ce truc de quand t'es en cours de mission, tu te dis, ah ben, c'est bon, ça tourne, et t'es pas en train de poser les fondations pour les missions d'après, ce qui fait que il y a ces effets d'ANSI que je pense plein de freelances connaissent, et qui nous donnent aussi, t'sais, cette perception un peu sociétale que être indépendant ou être freelance, c'est super précaire, ça se trouve du jour au lendemain, t'as plus de taf pendant 6 mois, et ça crée de la peur et tout. Mais je pense que ça vient assez principalement de ça, tu vois. Genre, quand t'es en mission, tu cherches pas pour après, et tout d'un coup, t'as plus rien, et du coup, faut chercher, se bouger. Sauf que les effets, ils viennent à long terme, et du coup, c'est hyper important d'avoir des fondations solides qui permettent la récurrence de trouver des missions ou la récurrence avec les mêmes clients.
Ouais, exactement. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à mes dépens, mais effectivement, en plus, moi, je suis très, très mauvaise en organisation, en planification et tout ça. Je sais à peine faire. J'apprends à peine cette année à vraiment m'obliger à m'organiser. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, c'était comme tu dis, j'ai une mission, trop bien, j'ai du boulot, je le fais. Et une fois que c'est terminé, ah, je fais quoi maintenant? Bon, bah, j'attends patiemment. Je vais aller faire un tour dehors, que quelqu'un m'envoie un mail. Enfin, ça peut pas marcher dans la longueur. C'est pas possible. Effectivement, les moments où j'avais de l'argent, j'étais trop contente. Enfin, généralement, c'était la première partie de l'année jusqu'à l'été où ça marchait hyper bien sur Malte. Et du coup, j'avais de l'argent pour partir en vacances l'été et tout ça. Mais je partais un mois en vacances l'été et je coupais mon profil. On peut mettre en pause sur Malte.
Ouais.
Et du coup, comme Malte, ça marche sur un algorithme, bah, c'est comme tout, hein. C'est comme Instagram et tout ce bazar. Dès qu'on arrête de poster, qu'on arrête d'être présent, il y a tout qui s'essouffle, il y a tout qui s'en va. Et du coup, j'avais pas de boulot pendant août parce que je partais en vacances, septembre et jusqu'à mi-octobre des fois, enfin sur les 2 fois où ça m'arrivait, j'avais pas de taf. Et du coup, je vivais sur mes économies. Et en fait, à chaque fois, je recommençais mi-octobre, fin novembre à zéro.
Okay.
Donc effectivement, au bout d'un moment, c'est pas du tout viable. Je peux pas faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas de crédit sur le dos, j'ai rien. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir faire besoin, ça sérieusement.
Ouais, grave. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai l'impression que, tu vois, fin 2018, cette période où tu parles, où l'émission s'essouffle un peu au mois d'octobre, ça coïncide pas mal avec le début de ta création de contenu et de ton blog. Je suis remonté un peu dans les archives et je crois que ton premier article, c'est genre janvier 2019, quelque chose comme ça.
coup, je me demande si ça fait partie d'un autre switch pour toi de OK, il faut qu'on passe un autre cap sur autre chose que Malte.
Ouais. Alors, Malte, c'était pas 2018, c'était vraiment 2019 où ça m'est arrivé. Okay. Les deux fois où c'est retombé, c'était mi-2019 et mi-2020. Du coup, en 2019, j'étais à fond dans tout ce qui était graphisme sur Malte et tout, ça marchait hyper bien. 2018 aussi. Et en fait, j'ai commencé mon blog et mon Instagram à poster des choses qui n'ont toujours rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Début 2019, parce que justement, ce côté créatif me manquait. Que je faisais pas d'illu ou très peu encore. C'était vraiment le début où j'ai instauré de l'illustration dans mon travail. Et c'était que des choses vectorielles qui me plaisaient pas forcément. Enfin, c'était pas très créatif au final. Et du coup, c'est le moment, où je me suis mise beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me suis mise à faire un Instagram et tout et à suivre plein d'illustrateurs et à me dire, mais c'est cool ce métier-là.
Moi aussi.
Ça m'intéresse pour le coup et c'est bien différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc si je faisais la même chose, tiens. Donc au début, c'est pareil, hein, c'est comme avec le freelancing, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait tout à l'envers, j'ai commencé par faire une boutique en ligne alors que j'avais pas d'audience. Enfin, c'est pour moi des choses aujourd'hui où je me dirais, mais non, t'as tout fait à l'envers, c'est pas du tout comme ça qu'on faisait. Mais c'est pas grave, j'ai testé et tout, et puis ça m'amusait bien à l'époque de pouvoir écrire des articles que personne ne lisait à part ma mère et ma grand-mère. Du coup, j'ai fait ça au fur et à mesure, et c'est vraiment après, du coup, mi-2019, où, comme je te disais, je suis partie en vacances et tout, et que tout s'est effondré. Pendant 2 mois, j'ai pas eu de travail.
Relativement, quoi.
Et que je me suis dit, je vais faire un peu plus Instagram, un peu plus ma boutique, et puis, c'est sûr que quand on regarde Insta comme ça, les illustrateurs qui postent beaucoup, qui ont une grosse audience et tout, bon, ça fait des années qu'ils font ça, mais ils ont l'air de bien vivre de ça. Et ça me plaisait plus, c'était quand même beaucoup plus attractif que ce que je faisais un peu tous les jours. Donc, ça a commencé un peu à tourner dans ma tête en me disant, ce serait quand même pas mal que j'essaye de vraiment me remettre à ça. L'illustration, je suis pas hyper bonne. J'aime bien illustrer, mais je suis pas non plus assez bonne pour pouvoir proposer à des clients de faire ça vraiment à 100% que l'illustration est dans mon style. Je m'en sentais pas du tout capable à l'époque. Et du coup, je continuais quand même l'émission graphiste, un peu d'illustration vectorielle, tout ça, jusqu'à début 2020.
Ok.
Où là, il y a eu un gros changement, pratiquement que grâce au confinement, qui a fait que j'ai pris 20 000 abonnés en 2 mois sur Instagram.
Waouh!
C'est énorme, énorme. Et du coup, en fait, en 2020, pour la nouvelle année, je m'étais dit, si je veux vraiment me mettre à l'illustration, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on veut être bon dans quelque chose, il faut faire. Il faut pratiquer, il faut faire. Donc, je m'étais dit, un peu en rigolant, du style, je vais faire une illustration par jour en 2020. On fait ce qu'on peut, hein, mais au final, j'ai réussi. Parce qu'il y a eu les confinements, il y a eu toute l'année 2020 qui a fait qu'on est beaucoup resté chez nous et qu'au final, je passais mes soirées dans mon canapé à faire de l'illustration, des choses qui ne me prenaient pas beaucoup de temps mais qui m'ont permis de m'entraîner. Je postais tout sur Instagram et c'est monté. Et mi-2020, je commençais à être... j'avais du coup un peu plus de 20 000 abonnés et là, je commençais à recevoir des mails intéressants avec des propositions de missions vraiment avec de l'illustration dans mon style. Et là, j'ai accroché ma chaise et j'ai fait « Ok, là, c'est le moment ou jamais, il va falloir faire quelque chose parce que ça commence vraiment à arriver et alors que je n'étais pas prête. »
Ça arrive toujours, bien sûr.
et du coup, je me suis dit « Bon, là, il va vraiment falloir que j'attrape la perche qu'on est en train de me tendre, de répondre à ces emails et pouvoir refaire encore un pivot au niveau de mon métier et de m'orienter vraiment vers un truc full illustration dans mon style où là, mes illustrations, j'aurais pratiquement envie de les signer Aurore Bay, quoi. Pas juste une illu vectorielle que tu lâches pour une entreprise qui te rappelle jamais.
Ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, c'est vraiment ce que, quand je regarde ton existence Internet aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que t'incarnes vraiment, il y a tout un mouvement sur Internet qui s'appelle Building in Public, construire en public. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que t'incarnes quand je regarde ton travail aujourd'hui. De partager ton quotidien, de te montrer en train de dessiner, enfin, toutes ces choses-là. Mmh. Et du coup, je suis curieux, est-ce que c'est ça, dès 2020, en fait, quand tu te dis, je vais illustrer un truc par jour, est-ce que tu rentrais déjà dans cette réflexion-là un peu, ou c'était purement, je veux dessiner, et du coup, je vais les poster parce que, c'est sûr que ce sera bien, mais...
Je pense, Un peu des deux. Bah, déjà, oui, c'est sûr, je voulais dessiner pour m'améliorer, bah, moi, personnellement, pas du tout pour essayer de faire quelque chose sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout mon objectif. Mais je voulais, dans ma tête, je pense que début 2020, je te dis, j'avais beaucoup vu bah, sur Insta, sur Behance et tout, des illustrateurs qui en vivaient, qui étaient bien, qui avaient vraiment développé leur style, et ça me donnait vachement envie. Du coup, je me suis vraiment mis l'objectif de faire une illustration par jour au début, mais pour moi, pour vraiment m'améliorer. Et bah, après, il y a juste eu toutes ces conséquences qu'il y a eu derrière bah, avec les réseaux sociaux qui ont fait que ça m'a ouvert de nouvelles portes que j'avais même pas calculées au début, quoi.
Ouais.
Donc, et ce qui est drôle aussi aujourd'hui, bah, effectivement, c'est de pouvoir remonter un peu dans le temps, comme tu disais, de regarder un peu la construction de d'où je suis partie, où je suis aujourd'hui. Et ça, je le faisais pas forcément consciemment au début. Maintenant, je le fais complètement en pleine conscience, quoi. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, c'est pour ça que je partage beaucoup en story et tout, parce que en fait, j'en suis encore loin dans mon objectif, s'il y en a un. Mais c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure et qui va être hyper intéressant de creuser d'ici 2-3 ans. Je me dis, s'il y a des personnes qui commencent au point où j'en étais au tout début dans 2-3 ans et qui pourront tout refaire, toute ma timeline et voir comment j'ai construit le truc et en combien de temps, comment je m'y suis pris pour gagner du temps. Enfin, franchement, moi, j'offre. Oui, je veux partager toutes ces choses-là parce que si j'avais... Je pense qu'il y en avait déjà sur YouTube et tout à l'époque, mais si j'avais déjà un peu plus cherché à l'époque et que j'étais tombée là-dessus, bah, ça m'aurait peut-être économisé 2 ans.
Ouais, c'est clair, à reconstituer un peu le comment de... Ça, c'est un truc que j'adore, que je me suis énormément appliqué à moi-même, cette espèce de réflexe de aller chercher des gens qui incarnent ce que j'ai envie d'incarner ou qui font ce que j'ai envie de faire, et essayer de déconstruire le modèle de, quand ils en étaient à mon stade, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, qu'est-ce qu'ils ont fait en deuxième. Ça oriente un peu les questions que je te pose d'ailleurs, parce que... Tu vois, je pense que quand on voit ton contenu sur Insta ou sur YouTube, il y a plein de personnes qui se disent « Ah, c'est trop bien ce que fait Aurore. Moi aussi, j'aimerais, un peu comme toi avant, quand tu regardais d'autres personnes. »
Bah, faites-le, c'est trop bien.
Bah ouais,
mais moi, je le fais toujours. Hein, je me fais des fiches avec des gens où je regarde leur site, leurs réseaux sociaux et tout. En fait, je me suis mise à Notion cette année et du coup, depuis, je mets tout là-dedans et je me fais des fiches de personnes que j'admire ou je trouve le boulot trop cool, que ce soit en illustration ou autre chose. Hein. Des fois, c'est il y a aussi beaucoup de YouTubeurs, tout ça. Et j'essaie de redéconstruire où ils étaient, à quel moment, à quelle année ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, un peu quelle stratégie ils ont mis en place aujourd'hui. Enfin, tu sais, déconstruire, de faire vraiment un travail presque d'analyse pour essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et puis moi, ça me permet aussi de me former.
Trop intéressant.
Parce que mon boulot n'existe pas en soi d'être un peu illustratrice, un peu youtubeuse, un peu Instagram, un peu machin, un peu truc. Ça n'existe pas comme ça. Enfin, jamais je pourrais trouver une formation qui me dise exactement comment faire. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut que je me documente. Il faut que j'analyse d'autres personnes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je fais beaucoup ça. J'aime beaucoup faire ça.
Ouais. Et en vrai, c'est trop intéressant. Moi aussi, j'adore et voir qu'est-ce qui me parle le plus chez telle personne et comment je peux incarner ça. Moi, je l'ai beaucoup fait, par exemple, sur la prise de parole en public. Moi, 2020, c'était une année qui était censée être une année de prise de parole présentielle. On sait ce qui s'est passé. Du coup, clairement, ça n'a pas été du tout mon année 2020. Mais je suis retombé sur un enregistrement d'une de mes conférences que j'ai données début 2020 à Paris, où je disais cette année, ce sera l'année du présentiel. Et j'avais mis un calendrier de toutes les confs que je voulais faire. Et pour faire ça, je m'étais beaucoup entraîné à regarder des gens qui me fascinaient sur scène et à essayer de décortiquer comment ils bougeaient, comment ils parlaient, à quel moment ils mettaient des pauses, comment ils construisaient leur discours, et décortiquer comment ils faisaient pour me dire « Ok, bah, il faut que je fasse pareil, quoi. »
Mais c'est d'ailleurs super bien aidé.
Ouais, c'est fascinant, j'aime trop faire ça.
Ah bah, exactement, moi je suis exactement comme ça dans ce côté-là, parce que on a tous des rôles modèles dans la vie. Depuis qu'on est petit, on prend exemple sur d'autres personnes et tout.
Ouais.
Et effectivement, pourquoi on ne nous apprend pas ça plus tôt, qu'on fasse consciemment qu'il faut copier les personnes qui nous inspire et où on voudrait, j'allais dire, être les mêmes personnes. Non, c'est pas vraiment le bon terme.
De toute façon, c'est pas possible.
C'est pas possible de toute manière. Mais aller un peu dans le même sens que ces personnes-là pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis carriériste, je suis ambitieuse. j'ai des objectifs très clairs en tête Et du coup, je les note, je décortique au maximum, je me fais des stratégies et tout. Ça, c'est tout nouveau aussi chez moi. Comme je disais, je suis très nulle en illustration. En organisation. Non, illustration, je suis mal foutue. Hein. Et ça me permet d'apprendre, quoi. Donc, c'est hyper intéressant d'apprendre des autres. Et c'est pour ça que, effectivement, tous les gens qui partagent tout, qui sont très ouverts et qui partagent la réalité de leur travail, de vraiment comment ça se passe tous les jours. Moi, j'adore regarder ça. Plus qu'une version un peu enjolivée, vraiment mignonne. Ouais. En plus, dans l'illustration, création, il y en a beaucoup qui font des vidéos YouTube, Instagram, tout parfait, tout beau et tout. C'est très bien. Mais c'est pas les backstage. Moi, c'est les backstage qui m'intéressent parce que moi, je veux faire la même chose que toi. Regarder ce que tu fais, c'est super, mais c'est pas ce qui m'intéresse en soi.
Ouais, et c'est vrai que je trouve, moi ce que j'adore dans ce mouvement-là de building in public, coup, je sais pas si je l'avais dit en français, mais construire en public, quoi, c'est que ça crée énormément de richesse, parce que du coup, en gros, je capitalise sur tout le... Enfin, les personnes qui regardent ces contenus-là peuvent capitaliser sur tout le temps que l'autre personne a investi pour avancer plus vite, apprendre des erreurs de la personne, comprendre ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché... Sachant que encore une fois, ce sera différent pour nous parce qu'on est un être humain complètement différent. Donc il y a des stratégies qui vont peut-être pas marcher ou d'autres au contraire, ça va mieux marcher que pour la personne. Mais je trouve ça tellement beau en fait de se dire, voilà, moi je suis en train de tracer une route et je vais apprendre plein de choses parce que je trace cette route et j'ai envie que vous appreniez de mon expérience pour faire la même chose et en mieux et en plus rapidement et en espérant peut-être que vous me dépassez même dans le futur. Je trouve ça hyper vertueux, en fait, parce que du coup, je crois que j'en parlais dans mon épisode solo sur, j'avais appelé ça le pouvoir des relations humaines, sur le fait qu'en fait, on est, l'humanité entière peut grandir, tu vois, de par ce genre de modèle.
Ah, moi, je suis persuadée que de toute façon, l'époque des requins, comme on disait, avec tout le monde qui gardait ses secrets pour lui et qui parlait à personne pour être... successful, mais juste lui tout seul dans son coin, elle n'existe plus. Enfin, il faut qu'on la fasse disparaître cette époque parce qu'effectivement, ça crée des différences, ça crée des groupes vraiment. Enfin, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui s'y connaissent pas. Enfin, c'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement de créer une communauté, d'être tous. On est tous sur les réseaux sociaux, donc soyons tous sociables, soyons tous dans le partage pour qu'on réussisse tous. Enfin, qu'est-ce que t'as à perdre de toi si tu réussis, que ton voisin il réussisse aussi de toute manière, comme tu disais. On est tous différents, on a tous notre personnalité. Il y a de la place pour tout le monde, surtout si on arrive après à aller dans un truc vraiment très particulier qui nous intéresse de fou, comme moi. Moi, je suis vraiment illustration, freelancing et tout ce qui est création, tout ce qui est autour des créatifs, quoi, avec ma chaîne YouTube, tout ça. Du coup, mon voisin, même s'il a envie de faire la même chose que moi, il ne fera pas exactement les mêmes sujets. Il va avoir ce sujet à lui qui l'intéresse beaucoup plus. Donc, en soi, il n'y a aucune concurrence à avoir.
Grave, grave, parce qu'ils ne pourront jamais faire du horror B et toi, tu ne pourras jamais faire du machin, quoi.
C'est ça. Ou s'ils essayent, ils le feront, mais en moins bien. Et du coup, ils vont juste se casser la gueule. Donc, autant qu'ils fassent un truc qui soit 100% eux, et là, ils y arriveront.
c'est clair. Et il y a un autre truc que je trouvais trop intéressant là-dedans, parce que du coup, en préparant l'épisode, j'ai un peu retracé tout ton Instagram, tout ton blog et tout. Et je me suis rendu compte, en fait, que finalement, d'être dans cette démarche de création de contenu et de documenter ton parcours et tout, c'était aussi une sorte de portfolio vivant de ton travail. Ça met en avant tes illustrations, parce qu'à chaque fois, tu illustres, des fois, c'est tes couvertures YouTube, des fois, c'est des posts Insta pour faire passer tel ou tel message. Donc, ça met en avant ça met en avant ta créativité. Ça met en avant l'application de ta création sur des modèles particuliers. Et en fait, c'est ça que aujourd'hui, j'imagine, tes clients viennent acheter chez toi en mission. C'est aussi, je vois ce que Aurore est capable de faire. Et comme tu le mets en scène, ça permet de mieux montrer. Et en plus d'être dans cette capacité de production plus poussée que si tu fais juste pour ton portfolio et après j'attends. Du coup, je trouvais que c'était un autre beau bénéfice de tout ce travail que tu as fait sur le contenu.
Bon, après, c'est vrai, mais c'est vrai dans mon cas, parce que moi, je veux faire de l'illustration, mais pas que l'illustration. Je suis aussi plus dans la création de contenu, j'aime bien faire des vidéos YouTube, du coup, parler en public, tout ça, mais c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Donc, moi, si je le fais, c'est effectivement, comme tu dis, c'est pour construire un portfolio et pour montrer que j'ai envie de faire ça. Mais je comprends bien que quelqu'un qui est bah, pas envie de faire de la vidéo ou pas envie qu'on l'appelle pour parler à une conférence ou quelque chose comme ça, qu'ils le fassent pas. Ça, c'est absolument normal. Moi, c'est juste que je veux pas être illustratrice, enfin, je veux pas être que illustratrice. Il y a vraiment d'autres choses qui m'intéressent. Et effectivement, le fait, bah, d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a permis d'avoir, de faire des lives pour Adobe sur YouTube. D'avoir un blog, ça m'a permis de faire 2-3 articles aussi en collaboration avec des marques ou d'autres choses en illustration. Enfin, d'avoir des illustrations sur Instagram, ça m'a permis aussi de faire du sponsoring et de faire du contenu illustré pour des marques. Enfin, chaque chose, effectivement, a une utilité. Il y a des choses que je me sers plus que d'autres, comme Instagram par rapport à mon blog. Mais c'est que des choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire, forcément. Donc, oui, ça alimente une sorte de portfolio.
Ouais. Bah, c'est la diversité de ce que tu as envie de faire dans ton activité. Et du coup, ça vient nourrir toutes ces pièces. Mais je trouvais ça cool de voir ça, ouais. Et de voir aussi l'évolution de ton style et de tes envies et tout ce qui suit finalement ton parcours, quoi. C'est assez c'est organique finalement. Et je trouvais ça assez intéressant de voir justement ce côté. On parlait de chaud-froid tout à l'heure. Ça, t'as des branches qui viennent se construire. Tu rajoutes des briques petit à petit.
C'est sûr que moi, j'ai pas de stratégie. Maintenant, un peu plus, mais j'ai pas envie non plus de m'en tenir à une stratégie très, très définie. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, je parle toujours d'Instagram, mais c'est parce que je connais très bien l'appli. Que, par exemple, tous les gens qui sont coach ou qui ont une application ou une entreprise, ils font un Instagram qui est très ordonné avec vraiment... tout est planifié, tout est prévu à l'avance et tout. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Au début, à un moment, je me suis dit, il faudrait que je le fasse. Et après, je me suis dit, non, parce que c'est pas une entreprise. Mon Instagram, c'est une personne. Et si je fais ça, je perds tout le côté un peu naturel, backstage et tout. Et au final, effectivement, je change d'avis tous les 6 mois. ça évolue très vite que des fois, on se demande, enfin, je pense qu'il y a bien des gens qui doivent regarder mon contenu, tu sais, qui l'ont pas vu pendant quelques mois et qui reviennent et qui font, oula, c'est quoi ça? Je reconnais plus du tout. Bah, après, effectivement, je me cherche encore et j'essaye plein de choses. Il y a des choses qu'au final, 6 mois après, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Ça va pas. Donc, j'archive. Hop là, j'enlève. Donc, je sais pas si ça me sert ou si ça me dessert. J'ai pas encore assez de recul pour savoir exactement. Mais en tout cas, je m'aime. C'est sûr.
Bah, ce qui me vient, c'est que ça marche très bien pour toi. Je crois que t'as plus de 60 000 abonnés aujourd'hui sur Insta?
Non.
Non,
40.
Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai 40, ok, j'avais ce chiffre en tête. Ouais. Mais bon. Je vois dans le futur.
Mais non.
T'arriveras à 60 un jour. Mais je me dis, tu vois, genre, c'est ça qui est cool, c'est que on peut se dire, ah oui, il faut absolument que j'ai un feed ultra organisé, tout de la même couleur, avec un ordre précis, patati patata, et c'est là que j'aurai enfin, je pense, la limite symbolique, c'est un peu les 10 000 pour le swipe up. Mais tu vois, toi, t'es un contre-exemple. Et il y en a d'autres qui vont être un autre contre-exemple. Et moi, ce que ça me montre encore, c'est ce truc qu'on disait là, c'est il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la stratégie qui va à tout le monde, il y a juste son authenticité à soi et le fait de... Après, t'as investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour le faire et construire toute cette dynamique avec ton illustration par jour en 2020. Donc, ça fait aussi la différence d'être juste régulier. Mais je pense que la régularité, elle vient aussi du fait de suivre ses propres contraintes qui nous vont. Genre, quand on se met la contrainte de « il faut absolument que celui-là soit... » Moi, je le fais même, hein. Tu vois, il faut que celui-là, il soit rose clair, celui-là, il soit rose foncé. Et là, il y a une photo. Mais je vois que des fois, ça freine l'élan de création que si juste j'étais en mode « bon, allez, mets tout ce que tu veux dessus, quoi. »
Mais après, faire ça aussi, c'est parce que tu dis pas la même chose que moi, ce que je raconte, tu vois. Moi, je m'adresse à qui, toi, tu t'adresses à qui. Donc forcément, les gens ne sont pas sensibles aux mêmes images. C'est juste ça, en fait. Moi, je m'adresse aux illustrateurs. Donc, des belles images, ils savent les faire aussi. Donc, c'est peut-être pas ça qui est intéressant. Que toi, tu t'adresses à des freelances, mais pas forcément dans la création. Et du coup, tes images, elles sont quand même très travaillées avec un certain graphisme et tout. Et tu promotionnes un média. Donc, le fait d'avoir justement ton identité, ça veut dire que même les gens, même en swipant très rapidement, tu vois, sur Insta, ils vont voir ton image rose clair passer. Ils vont faire « Ah, nouvel épisode, c'est bon. »
Ça, tu on vois, sait qui c'est ça.
C'est juste pas la même chose, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Ça, en testant de toute manière, en essayant de connaître un peu ce qu'est bien notre audience, en analysant un petit peu aussi, et en faisant ce qui nous plaît, surtout. Ouais.
Et en se ramenant à soi, clairement. Et y a un autre sujet que je voulais voir avec toi, et t'en as un peu parlé à différents moments dans notre conversation, là, notamment le moment où tu disais, j'ai commencé à ouvrir une boutique en ligne avant même d'avoir une audience. Et c'est drôle, je suis remonté dans ton historique et j'ai trouvé ton tout premier produit qui était un tote bag, et c'était 2018, je crois que tu l'as sorti, je me suis noté la date, un truc comme ça.
Et,
ouais, avec les toucans, exactement. Et c'est exactement, c'est celui-là. Et du coup, t'en as parlé un peu là, et t'as parlé du fait que t'as commencé à faire de l'illustration sponsorisée pour des boîtes sur ton Insta. Enfin, voilà. Avec le temps et cette nouvelle démarche de création de contenu que t'as, j'imagine que tes sources de revenus dépassent que les missions clients. Et je suis curieux de dans quelle ordre c'est arrivé. Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière? C'est quoi ta réflexion sur cette diversification aussi de tes sources de revenus pour ne plus être seulement dans la forme classique freelance, j'ai des missions.
Alors, ça, c'est une réflexion aussi qui est assez récente, qui vraiment date de cette année, hein, de 2021. Okay. Juste pour revenir sur ce que tu disais, la boutique en ligne, tout ça. Oui, au début, j'avais mis une boutique en ligne, mais voilà, j'ai fait des tote bags, je les ai vendus à ma famille et à mes potes. Hein. J'ai jamais rien vendu en dehors au tout début parce que j'avais genre 10 abonnés sur Insta et que j'avais pas de blog, j'avais pas de LinkedIn, je faisais rien d'autre, donc je risquais pas de vendre à d'autres personnes.
Ouais.
Et aujourd'hui, la boutique, c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. J'ai déjà fait des ventes au moment de Noël ou des choses comme ça. Oui, j'en vends un petit peu, mais c'est pas du tout démentiel. Et voire rien du tout certains mois. mais du coup, ce qui m'a plus convaincue qu'il fallait que je diversifie mes revenus, mes sources de revenus, mais diversifier aussi ce que je faisais, donc pas faire que des missions clients, mais faire aussi d'autres choses à côté, c'est déjà mes deux expériences, je te disais, avec Malte, que quand tu l'arrêtes pendant un mois, il y a tout qui s'écroule.
Ouais.
Donc ça m'a bien mis deux fois... une bonne baffe en disant « Aurore, non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas viable sur le long terme. » Et maintenant aussi, c'est parce que, en fait, en faisant des vidéos YouTube, je regarde de plus en plus forcément des vidéos YouTube et je vois beaucoup tous ces gens, beaucoup des Américains qui te disent pour monter un business. Donc, on va plus loin même que d'être juste freelance et de faire des missions clients. Pour monter un business et vivre de ton entreprise, il faut forcément avoir plusieurs sources de revenus quand t'es tout seul en tant que créateur de contenu. Bon, je mets des guillemets parce que ça veut tout et rien dire, créateur de contenu, mais... Et du coup, j'essaye de mettre en place là, vraiment maintenant, des stratégies pour essayer de ne plus avoir que des missions clients. Surtout que plus ça va, moins ça m'intéresse. Donc ça va dépendre bien sûr des missions. Il y a des choses où je peux pas juste ne pas dire non, c'est trop cool, vous faites une super boîte ou quelque chose comme ça, et il y a des choses où franchement si je pouvais je m'en passerais. Donc moi c'est ça que j'ai envie de d'éjecter, de
d'éliminer quoi, ouais.
C'est tous les jours essayer d'éliminer, ouais, d'essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre en place comme autre source de revenus pour essayer de ne plus dépendre des clients, ne plus dépendre des missions freelance pour vivre, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très récent. J'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube avec tout ce qui est les stocks illustrations, les revenus passifs, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a très peu de contenu là-dessus en français. J'en ai pas vraiment trouvé sur YouTube. On en parle un petit peu, mais c'est très surface. Les seules personnes qui creusent vraiment ces sujets-là, dans le freelancing en tant qu'entrepreneur, c'est que les Américains, on va savoir. Donc, je me suis dit, non, c'est pas juste. Moi aussi, j'ai envie d'en profiter et de faire profiter aussi les gens qui me suivent. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça? Surtout qu'illustrateur, il y a l'étiquette métier précaire en énorme. Et que c'est compliqué, tu peux pas vivre de l'illustration, tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, non, en fait, déjà, je vais essayer de le faire. Je veux y arriver. On va voir si j'y arrive. De, justement, diversifier mes sources de revenus en tant qu'illustratrice pour pouvoir apprendre aux autres comment faire. Et si je peux, d'ici 10 ans, dire à des gamins de 15 ans, regardez, illustration aujourd'hui, c'est ça. Et vous gagnez temps et vous faites ça de vos journées. Vous faites ça comme taf, et qui me disent « Ah ouais, c'est trop bien, j'imaginais pas, là, j'aurais tout gagné. » Mais c'est un gros boulot aussi à faire sur la longueur. Et là, effectivement, comme je disais, il n'y a plus rien à voir avec ce que je faisais il y a 3 ans.
ouais, c'est clair. Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu es au tout début de cette nouvelle phase de l'aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, ton modèle de rémunération dépend encore prioritairement sur l'émission?
Des clients, ouais. Complètement. Je peux pas encore tout lâcher et me dire comme ça du jour au lendemain, vas-y, c'est parti, j'arrête. Non, c'est pas possible. C'est vraiment un truc, les revenus passifs, de toute façon, ça se construit sur la longueur. Donc, pour l'instant, je prends que mes clients que j'ai depuis longtemps, en fait. Les clients réguliers qui ont un an et demi avec moi. Et du coup, oui, je continue à dire oui. Ça me permet d'avoir quand même une base de revenus, pas aussi bonne que quand j'étais à fond dans le freelance, dans le graphisme et que j'enchaînais l'émission, forcément. Mais ça me permet au moins de maintenir jusqu'à, tu sais, qu'il y en a un qui grossit plus que l'autre. Et du coup, je vais pouvoir le faire réduire et pouvoir vraiment faire le switch complet, quoi. Donc, j'aimerais bien le faire avant la fin de l'année 2021. Je croise les doigts. Je ne sais pas si ça va être possible. C'est un gros objectif. Mais après, moi, j'ai pas peur non plus de me mettre vraiment à bosser et de, pour y arriver, quoi. Si c'est pour être tranquille en 2022, ça veut dire qu'à chaque fois, tous les ans, je ferai un truc différent presque. Tu sais, je fais des jumps dans mon. C'est ouais. rapide, mais j'aimerais
bien. Bah, c'est ça, hein. Ça se construit brique par brique, en fait. C'est aussi ce genre de nouvelles formes qu'on donne. Tu vas gagner en complexité. Forcément, parce que tu vas rajouter des briques, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est la voie qui te va mieux. Ça te va mieux, ce gain de complexité-là, et l'exploration qui va autour, et l'apprentissage qui va autour, que la simplicité, entre gros guillemets, encore une fois, parce que c'est loin d'être simple, de garder que des missions clients et de tout mettre là-dessus, quoi. Et c'est un vrai choix, du coup, finalement.
Ah ben, complètement. Enfin, là, comme tu dis, j'ai choisi la complexité, j'ai choisi de bosser deux fois plus que tout le monde et tout, parce qu'il faut que je construise un métier qui n'existe pas, que je ne connais pas surtout, pas qu'il n'existe pas, mais que je connais pas du tout. Et pour ça, bah, va falloir que je bosse deux fois plus. Mais par contre, c'est ce que je disais à des amis il y a deux semaines en week-end. Tout le monde disait, j'ai pas envie d'être lundi matin. Enfin, c'est, franchement, le week-end, ça peut durer plus longtemps. Et moi, je disais, mais moi, j'ai trop hâte d'être lundi.
J'ai trop envie.
Vous savez pas ce que je fais lundi. Lundi, je fais du contenu pour Insta, je fais une vidéo YouTube. Après, il faut que je bosse 2 heures sur un projet client. Enfin, mon programme du lundi est trop bien.
Ouais, grave. Moi aussi, c'est pareil. Donc, je suis trop content. Le lundi, c'est une des meilleures journées de la semaine, je trouve.
Bah ouais. Enfin, quand t'arrives à ça, là, tu te dis, ok, j'ai quand même bien réussi. Enfin, réussi. Bien réussi à être un endroit où j'ai envie d'être. Après, est-ce que je vais réussir pour tous les autres parties? C'est à construire, mais.
Ouais.
C'est déjà pas
et
mal
du coup, j'aimerais bien juste essayer qu'on transmette à ceux qui nous écoutent un peu ta stratégie, la direction que tu prends. Tu te dis aujourd'hui, je dépends majoritairement de mes clients, j'ai envie de construire d'autres sources de revenus autour, et tu as parlé de stock illustrations, donc c'est créer des illustrations qui sont sur des plateformes ensuite que les gens achètent. T'as parlé aussi récemment du fait que tu commençais à monétiser ta chaîne YouTube, même si au début on sait que monétiser une chaîne YouTube c'est très petit, c'est une question de centimes. Mais je suis curieux de si tu te dis fin 2021 j'aimerais être davantage dans ce modèle-là, c'est quoi les axes que tu priorises et c'est quoi les stratégies que tu penses mettre en place pour ça, si ça te va de les partager.
Alors, oui, bah, je peux les partager, on va dire, en surface, dire ce que c'est exactement, parce qu'après, je peux pas donner des détails, tout simplement, parce que je les teste. Ouais. Si je vous dis des bêtises, après, dans un an, tu vas revenir me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu disais déjà? N'importe quoi. Je dis, ah, bon, d'accord. Donc, en gros, ce serait, oui, YouTube, comme tu dis, faut pas trop compter sur la monétisation de YouTube, hein. J'aimerais bien, si je peux gagner 100-200 € par mois avec YouTube, je serais très contente, hein. Je ne suis pas sur plus que ça. Mais par contre, tu vois, en faisant des vidéos YouTube, je vais attirer des sponsors, pour faire, bah, du coup, des partenariats avec des marques. Donc, ouais, sponsoring, c'est en anglais, donc plus partenariat. L'affiliation aussi. Donc, ça, c'est un moyen de gagner de l'argent, d'être affilié. Tu sais ce que c'est? Ouais. Où tu cliques sur le lien, cliquez sur le lien et pour pouvoir acheter le produit ou cet abonnement-là. Et toi, tu gagnes une petite commission derrière. Donc, ouais, effectivement, ça change rien pour l'acheteur, mais toi, ça fait gagner un peu d'argent. Et du coup, ça te permet d'avoir de l'argent pour créer plus de contenu derrière, pour remettre tes liens d'affiliation. après, faire du freelancing en petite dose, du style, comme je disais, il y a quelques missions, quelques projets où tu peux pas dire non.
Parce et t'as envie vraiment, de les prendre, quoi qu'il.
Voilà. Et t'as envie de les prendre. Donc ça, tant qu'il y aura des choses qui me plairont vraiment, je les prendrai. Le reste, j'aimerais bien mettre de côté. Puis j'aimerais bien pouvoir faire des cours en ligne, des choses comme ça autour du freelancing ou l'illustration. Donc ça, c'est pareil. C'est pas un truc que j'ai encore mis en place. C'est quelque chose que je creuse. Je suis en train de regarder, bah, pour pouvoir, pourquoi pas, faire des cours sur Skillshare ou sur Domestika, des choses comme ça.
OK.
Et puis après, qu'est-ce que j'ai mis? Pareil, sur Instagram, tout ce qui est sponsoring, affiliation, de la même manière, quoi. J'ai mis plusieurs choses. Je crois que j'en ai mis 8 des choses différentes dans ma stratégie.
Bah, il y a plein de leviers en soi.
Il y en a énormément, en fait.
Ouais. Dans ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a un peut-être que tu vas prioriser ou tu te dis ça c'est la prio, avant tu parlais peut-être de chaque année faire une brique en plus, est-ce qu'il y en a un où tu te dis 2021 c'est plus ça?
Bah, 2021 j'ai plus envie de me pencher plus sur YouTube parce que en fait je vois la différence maintenant entre Instagram et YouTube où la façon dont tu connectes avec les gens et comment tu partages les choses. En fait sur Insta t'as trop tendance, comme je te disais, à faire un joli feed et à t'arrêter là. Pour moi, un feed Insta, c'est ta vitrine. Donc, c'est ce que tu montres au premier abord. Mais après, une fois que les gens ils rentrent dans ta boutique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça, c'est les choses que je veux travailler. C'est tout ce qui est les stories. Peut-être faire des lives, des IGTV. Aller plus loin que juste montrer une photo ou une image. Parce que faire l'illustration, il y en a plein qui savent le faire. Mais effectivement, qu'est-ce que tu peux encore donner plus derrière? Et du coup, YouTube, c'est exactement dans cette stratégie-là de donner plus que de simples jolies images que les autres pourraient aussi potentiellement faire. Et du coup, j'ai envie de construire vraiment une vraie audience aussi sur YouTube parce que j'ai l'impression que je donne des infos aux gens et du coup, ils me répondent beaucoup plus. Les commentaires que j'ai, ils sont beaucoup plus gros, ils sont plus structurés, plus construits, alors que sur Instagram, je reçois pratiquement pas de messages.
Intéressant. Les gens, peut-être que c'est pas la même audience, du coup, celle de YouTube est plus tournée éducation, pédagogie et donc dans une démarche d'apprentissage, alors que sur Insta, c'est peut-être plus inspiration.
Ouais, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là.
Ok.
Et du coup, c'est des choses après qu'on se rend compte au fur et à mesure, à force de poster et en voyant les retours de toute manière.
Ouais, bah ouais. Et du coup, bon, ça va peut-être être un peu challengeant ma question, mais si on se dit que là, t'en es là en 2021 et ton focus c'est la chaîne YouTube, peut-être commencer à monétiser, j'imagine, en premier par du sponsoring parce que ça sera plus intéressant en termes de revenus, à mon sens, que la partie affiliation et monétisation publicitaire qui, bon, c'est des plus petits montants. Si on se projette dans 10 ans, est-ce que tu as de la clarté sur un peu la répartition idéale des différentes sources de revenus que tu aimerais avoir? En tout cas, de ta perception aujourd'hui, parce que j'imagine ça changera aussi.
Oui, je pense que ça va beaucoup, beaucoup changer en 10 ans. Hein. J'ai beaucoup d'idées en tête, de choses encore à mettre en place. Donc que je...
Mais dans l'idéal.
Mais dans 10 ans, dans l'idéal... 10 ans, c'est tellement loin. Si déjà, je dis dans 2 ans, ce sera pas mal. Mais... Parce que, comme tu dis, dans 10 ans, ça a le temps de changer. Bah, au moins 10 fois, si je fais un switch tous les ans. Mais effectivement, si je pouvais faire vraiment de la création de contenu à 80-90%, quand je bosse pour des marques, c'est vraiment des boîtes qui me font trop plaisir de bosser avec elles ou que ça vraiment ça me tient à cœur. Si je pouvais avoir une boîte autre que mon activité freelance, donc vraiment faire commencer une start-up, quelque chose comme ça à côté, qui soit toujours dans la même stratégie, mais vraiment avec un angle un peu différent pour le détacher un peu de moi aussi. Si je pouvais avoir un coffee shop, si je pouvais avoir tous ces trucs-là. J'ai 36 000 idées, donc dans 10 ans, c'est trop loin, je sais pas. Déjà, aujourd'hui, je me concentre sur construire une audience, connecter avec les gens, essayer de m'améliorer encore en illustration pour pouvoir donner des cours ou des choses comme ça. Déjà, je pense que si j'arrive à construire une audience et une communauté qui me correspond et qui me fait confiance, parce que je vais leur donner plein d'infos, là, je pourrais lancer des plus gros projets d'ici 3 ans, 5 ans et augmenter encore, on va dire, un peu cette bulle autour de l'entrepreneuriat, de l'illustration, de la création que j'ai envie de construire.
C'est intéressant que tu dises construire une audience. Est-ce que tu considères pas que tu en as déjà une? Je suis curieux, du coup.
Si, j'en ai déjà une. Mais après, en fait, sur Instagram, le fait que ce soit monté hyper vite, j'ai beaucoup de gens qui sont abonnés parce que je faisais des jolies images. Et du coup, c'est des gens qui ne regardent pas du tout, qui ne commentent jamais, qui ne font rien. Et donc, au final, je pense que mon audience, elle est de 2000, 3000 personnes sur les 40 000 abonnés. Donc, en vrai, mon audience, elle est toute petite. Et, et forcément, moi, ma cible idéale, c'est mon client idéal, comme on dit souvent, c'est des créatifs, plus particulièrement des illustrateurs qui sont en freelance, et il y en a beaucoup encore. Et effectivement, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus dans un endroit où les gens, ils me voient comme la nana avec beaucoup d'abonnés. Mais non, moi, j'ai tout à construire, toute la confiance à construire autour en disant, ok, j'ai peut-être beaucoup d'abonnés parce que je fais des illustrations colorées qui sont rigolotes, voilà. Mais à côté, j'ai envie de faire autre chose et il faut que je vous prouve que je sais le faire. Donc là,
c'est trop intéressant.
Dans ce côté-là.
C'est trop intéressant. Il y a plein de trucs.
On ne pas du tout mon audience comme acquis. Hein.
Mais c'est trop intéressant parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de dépackager de ce que tu viens de dire, plein de fils à tirer. Tu vois, le premier, c'est, je pense, on peut tellement facilement se dire de la perception extérieure que, putain, Aurore a une audience de dingue, elle a 40 000 abonnés sur Instagram, c'est fou.
Pas du tout.
Et que les gens se disent, waouh, j'en suis tellement loin, je peux rien faire. Donc déjà, ça, c'est un premier truc trop intéressant, en vrai. Mais il y en a un deuxième qui, du coup, est plus de ton côté, où tu dis, je pourrais faire des plus gros projets d'ici 3-5 ans quand j'aurai une plus grande audience. Et là, t'estimes à 2000-3000 aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, je pense.
Ok. Tu penses qu'il te faudrait combien?
Je sais pas exactement,
pour faire,
tu n'as pas de chiffre exact.
Ouais, c'est dur à mesurer, ouais, grave. Mais tu penses qu'il te faudrait combien pour faire un gros projet, selon toi?
Je sais pas combien, mais... Après, moi, j'analyse aussi pas mal les stats sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'aurai au moins 50%, après, je sais pas, c'est peut-être complètement débile de dire ça, mais 50% de mon audience qui soit un peu active et qui est vraiment intéressée dans ce que je dis, peut-être que là, ce sera le moment de mettre ça en place. Après, il n'y a pas que l'audience non plus qui va faire en sorte que je vais construire des plus gros projets. Parce qu'on sait tous que pour construire un plus gros projet, bah, il faut un peu d'argent. Et pour avoir de l'argent, moi, j'aimerais bien que tous mes revenus passifs, ils soient acquis et qu'ils fluctuent dans le sens qu'ils tombent tous les mois sans que j'ai besoin de trop m'y atteler. Et comme je sais que je vais faire des plus gros projets dans 5 ans, si aujourd'hui, je mets en place ce revenu passif et que d'ici 5 ans, ça me sort un bon salaire tous les mois sans rien faire, là, je pourrais changer et faire un gros projet à côté. Et du coup, j'en profite en même temps de mettre mes revenus passifs en place, de construire une audience qui vraiment, bah, je te dis, me fait confiance et sache exactement ce que je fais, ce que je peux leur apporter. Pour après, on va monter encore une marche, faire un step au-dessus, quoi. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais pour que ça aille plus loin, quoi. Ouais. Je commence petit et j'essaye d'augmenter au fur et à mesure, mais j'ai déjà fait un stab, maintenant peut-être un peu YouTube, et puis après on verra par la suite. De toute façon, comme je te dis, ça peut encore changer tellement de fois.
Complètement. Bah après, effectivement, pour des modèles qui sont basés sur le sponsoring et ou l'affiliation et ou ce genre de choses-là, clairement, le nombre de personnes engagées, c'est le facteur que les partenaires cherchent, quoi. Mais si tu veux, comme on est dans une... Je pense qu'on le fait bien depuis le début, mais que cet épisode, ce soit un bon exemple de ce truc construire en public, je peux te partager mes apprentissages de l'année. Parce que finalement, moi, j'ai eu cette année 2021, pour moi, ça a été l'année du pivot aussi. J'ai arrêté mes missions freelance, où de base, je faisais mes missions branding, storytelling, beaucoup avec l'écosystème startup à Paris, pour me focaliser à 100% sur être au service de mon audience. Qui, du coup, est pas si énorme que ça, finalement. Parce que moi, du coup, l'outil que j'utilise pour la mesurer principalement, c'est ma newsletter. C'est les gens qui, du coup, me suivent le plus et qui ont accès le plus à ce que je fais. Et sur ma newsletter, on est un peu plus de 2200. À date, aujourd'hui, c'était moins... En début d'année, c'était moins. Et du coup, 2200, c'est pas énorme. Tu vois, c'est pas non plus faramineux, 10 000 personnes, c'est pas huge. C'est quand même conséquent, mais c'est pas huge. Et je pense que le podcast touche un peu plus de monde qui sont pas forcément à bon analyseur. Mais passons. Et mon apprentissage de cette année, c'est de me rendre compte que avant 2021, je croyais que mon audience était trop petite pour que je puisse super bien vivre du fait de me mettre 100% à leur service, avec plein de choses en dehors des missions pour mes clients startup avant. Et je me suis radicalement trompé. Mais radicalement trompé. C'est-à-dire que en me mettant à 100% là-dessus, et du coup, moi, mon axe, ça a été l'axe de la pédagogie et de l'enseignement et de l'apprentissage, avec du coup formation en ligne, séminaires, accompagnement, ce genre de choses. Du coup, cette année, ça va être ça, 100% de mes revenus, à part une dernière mission freelance que je suis en train d'arrêter là cet été. Donc, allez, 80% de mes revenus, c'est de la pédagogie en ligne. Et j'ai fait, dans les 6-7 premiers mois, donc là, à date, j'ai fait x2 sur mon CA de l'année dernière, qui était 80% des missions clients.
C'est génial.
Ce qui est fascinant. Dans ma tête, c'était impossible.
C'est génial.
Parce que je me disais, mon audience n'est pas encore assez grande, faut que je développe plus, je touche pas assez de gens. Alors que, En fait, du coup, en 2, 3 ans, là, avec le podcast notamment, j'avais déjà développé un lien si fort de confiance que les personnes se disent, bah, ok, Thomas, il sort un truc, je vais y aller, évidemment. Et du coup, j'ai grave mesuré que ma perception du nombre de personnes dont j'avais besoin était complètement biaisée sur la réalité. Parce que déjà, sur les 2000 personnes qui suivent la newsletter, chacun de ces êtres humains, avec chaque projet qu'ils ont, bah, il y en avait plein qui étaient prêts à me faire confiance, quoi. Et là, je crois que j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que sur l'ensemble des programmes pédagogiques qu'on a sortis depuis la fin de l'année dernière avec, c'est là où j'ai lancé ma communauté payante fin d'année dernière, je crois qu'on a accompagné entre 3, presque 400 indépendants. Et tu vois, c'est une grosse part de mon
C'est
audience
génial.
finalement. Tu vois? Et c'est assez fou. Donc voilà, ça c'est
Mais comment t'as
mon
su
retour
que
d'expérience
c'était
publique.
assez au niveau audience?
Ben, je savais pas. En fait, jusqu'à fin d'année dernière, ce que je faisais en priorité, c'était construire des programmes. Donc l'année dernière, j'ai construit ma formation en ligne Construire ses offres en 2020, au premier confinement. Septembre 2020, j'ai fait la première édition de mon séminaire marketing, que je relance là bientôt. 2019, j'avais refait avec Marie, on avait finalisé notre programme d'accompagnement surf en freelance. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai construit tous ces trucs, mais je leur ai jamais donné une vraie chance d'être la principale, le truc principal de mon business. Donc 2021, un seul objectif, sortir les trucs et faire en sorte de leur donner une vraie chance et faire des vrais lancements et vraiment pousser le truc pour voir. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ou est-ce que j'ai encore besoin de garder une partie client? Et du coup, je me suis dit, bah, je sais
T'as pas
pas,
eu
donc je
peur
vais
de
essayer,
lancer
quoi.
ça comme ça?
Ah, mais si, j'étais pétrifié. J'étais pétrifié. En vrai, c'était un pari un peu en début
Moi, je
d'année.
pense que c'est ça qui me retient,
Ouais.
hein.
C'était un pari, tu vois, de me dire, j'abandonne 70 à 80% de mon CA et je décide que j'arrête mes missions parce que j'étais plus épanoui. Vraiment, mon énergie a chuté à chaque fois. Et ok, 100% éducation. J'avais déjà des petits signaux, tu vois. J'avais fait des belles choses en fin d'année 2020. J'avais relancé Construire ses offres et j'avais fait un beau premier lancement. Je crois que j'avais fait un lancement à 10 000 euros sur l'année avec tous les paiements étalés, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ah tiens, ok, c'est intéressant. C'était à peu près une à deux missions free. Et du coup, je me dis, tiens, il y a un truc, mais j'avais aucune idée que j'allais pouvoir faire un fois deux en 7 mois, quoi. Donc, clairement, c'est assez dingue.
C'est génial, hein, comme quoi. Ouais, complètement.
Donc,
C'est
voilà.
hyper
Peut-être,
intéressant. Et tu vois, moi, je pense que c'est un
peut-être.
des trucs qui me retient aussi. Hein.
Ben, j'allais dire, peut-être que ton
Ouais.
audience est déjà suffisamment proche de toi et que tu as déjà suffisamment de personnes pour que ça dépend du projet. Et encore une fois, moi, c'est la forme éducation en ligne et c'est pas la forme affiliation et tout.
Oui,
Donc, ça
bien
joue.
sûr.
La marge est plus intéressante, mais peut-être que, tu vois. Et je trouve c'est cool de faire ce retour
À creuser.
d'expérience parce qu'on peut se perdre dans les chiffres et c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà, j'arrête de parler.
Mais non, c'est hyper intéressant, hein.
En tout cas, bon, on a bien exploré tous ces sujets, je pense. Mais c'est cool, je trouve, de donner plusieurs points de vue et de vraiment parler de l'intérieur. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de quand on partage ce genre de choses, c'est tellement mieux que juste la façade qu'on voit et qu'on affiche.
Complètement. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de voir ce qui se passe chez les autres. Enfin, pas dans le sens voyeuriste, mais dans le sens backstage. Du coup,
Ok,
je le dis
j'ai
quand
compris.
même, hein, ça pourrait être mal interprété. Mais c'est pour ça que moi aussi, donner ce côté-là, je trouve que c'est hyper intéressant et que de toute façon, il n'y a pas assez de contenu là-dessus. Et que c'est pour ça qu'il y a encore des trop grosses étiquettes sur nos métiers. Et que moi, il y a une chose que je déteste, c'est qu'on me dise Ah, t'es freelance? Bah, tu fais quoi de tes journées? Tu fais rien. Ah ouais, super, merci. Parce qu'il y en a encore
Et
pas
c'est
mal. Des
tellement
gens que je connais pas
faux.
du tout. Hein. Voilà.
Ouais.
Pas, généralement, c'est des gens que je connais pas du tout. Hein. C'est des fois, tu sais, des personnes un peu plus âgées, des trucs comme ça. Ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis illustratrice. Alors, déjà, illustratrice, on est là. Tu fais quoi?
Hein?
Illustration? C'est quoi ça? Là, les gens, ils
Tu
connaissent
dessines, quoi.
très mal. Ouais, voilà. Et encore, quand j'ai illustration, faut que je répète à chaque fois. Hein. Déjà, sur la illustration, c'est-à-dire. Et alors, si je dis en plus que je suis auto-entrepreneur, alors là, t'inquiète qu'il y en a pour une demi-heure.
Ouais, putain, c'est fou, c'est fou.
Mais c'est pour ça aussi que c'est cool. Si on peut déconstruire ça et justement montrer à la nouvelle génération que nos métiers, ce sont des vrais métiers, que tu peux très bien gagner ta vie, tu peux complètement t'épanouir. Et moi, j'ai l'impression, après, je sais que c'est toujours biaisé parce que j'ai beaucoup de freelance autour de moi, que t'es plus libre, mais après, je te dis, c'est complètement biaisé, je pense aussi.
Ouais, grave. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode et nos paroles à tous les deux contribuent à déconstruire et contribuent à mettre un peu plus de transparence tout ça, sur tout ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a rempli un peu ça. Je te propose du coup, Aurore, qu'on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode, si ça te va, avec la première qui est, si t'étais face à Aurore qui se lance, donc il y a 3 ans et demi, c'est son premier jour d'indépendante, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais avec toute ton expérience depuis?
Alors, le gros conseil, ce serait, attends pas qu'il y ait une mission qui te tombe dessus. Est-ce que j'ai beaucoup rien fait en attendant? Et ce serait plutôt, forme-toi, apprends, le côté vraiment faire ton métier, ça tu l'as, dans le sens, tu l'as appris à l'école, mais être autant entrepreneur, c'est construire une entreprise, t'es président de ton entreprise, donc il faut se former à ça. Donc, n'hésite pas à apprendre à faire de la compta, à apprendre quels sont les meilleurs logiciels pour justement faire ta compta, faire ton administratif, comment on déclare les cotisations, qu'est-ce que c'est que des cotisations d'organiser, voilà, toutes ces choses-là, ne pas hésiter, il y a plein de contenus gratuits disponibles sur Internet pour déjà se mettre bien la tête dedans, donc ne pas hésiter à chercher, à faire des notes, à apprendre tout simplement, à faire ses propres cours là-dessus, donc ça, moi, je me dirais ça complètement. Ça m'aurait bien fait gagner, je pense, 1 an.
Ouais, de mieux exploiter le temps hors mission, quoi, et le mettre à contribution pour ton projet, finalement.
Complètement.
Ok. Cool, très bon conseil, et je pense qu'effectivement, au début, on est tellement dans le fantasme de savourer. Genre moi, je me souviens, je sortais au café à 15h et je me posais pendant 1 heure au café en mode « Haha, vous êtes tous dans vos bureaux et moi, je suis là en train de boire un café !» Alors que en fait, j'avais pas de mission et je bossais pas, tu vois. Mais bon, ça me rendait fier.
Voilà. Ouais, voilà. Moi, j'ai fait ça exactement, mais en faisant des cours de yoga, tu vois. J'étais là, c'est bien, je fais du yoga à telle heure, là, mais toute seule, tranquille, en pleine journée. Oui, mais non, en fait, c'était pas l'intérêt.
Je bosse pas. Ok, trop cool. Bonne réponse, j'aime bien. La seconde question. C'était quoi, sur les 3 ans et demi qui viennent de passer, ça a été quoi ta plus grosse difficulté? On en a peut-être déjà un peu parlé, mais on peut la redire. Mais surtout, comment est-ce que tu l'as dépassé?
Alors, ma plus grosse difficulté, je pense, de toute façon, c'est toujours aujourd'hui, hein, j'apprends toujours, hein, c'est toujours l'organisation. Je suis très mal organisée, j'ai beaucoup de mal à me projeter, et maintenant un peu mieux parce que j'écris de plus en plus, mais j'ai toujours fait un peu tout au jour le jour, ce qui m'a du coup valu de me casser la tête 2 fois avec plus de mission pendant 3 mois. Et donc ça, c'est vraiment une des plus grosses bêtises que j'ai fait, quoi. Si j'avais pu m'organiser correctement dès le départ, ou comme tu dis, ne pas aller au café à 15h ou faire une session de yoga à 11h du matin en me disant « De toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. » Non, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, ne pas hésiter, même si faire des horaires un peu light, mais quand même de s'asseoir et de prendre du temps pour s'éduquer et pour s'organiser, mettre une stratégie en place si on a envie d'en mettre une, enfin... Il y a quand même pas mal de choses à faire et moi, c'est vraiment ça. Là, ce qui m'a un peu aidée à bien m'organiser, forcément, c'est toujours de m'éduquer. Depuis que je passe beaucoup de temps sur YouTube, je regarde beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Et là, comme je te disais, j'ai fait une formation Notion il y a 2-3 mois. Et du coup, je me suis mise à fond sur cet outil-là pour tout noter, me faire des fiches, vraiment en allant de, comme je te disais, faire des fiches sur des gens pour analyser leur stratégie, jusqu'à me faire mes to-do sur la journée et faire des fiches, faire keep track, tu vois, même pour mes réseaux sociaux, je mets plein de trucs, j'essaye de tout noter et du coup, forcément, t'as toujours des points qui pop plus que les autres et du coup, ça me permet un peu de me dire, bon, ok, ça, c'est vraiment sur quoi il faut que je travaille, quoi. Déjà parce que ça m'intéresse plus et parce que je le vois toujours partout écrit sur mon truc. Ça veut dire que c'est un point Enfin, c'est une notion qui me le dit, quoi. C'est un point qui vient tout le temps, et du coup, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, quoi.
Ouais, et c'est vrai que d'avoir cette discipline de tout sortir de son cerveau pour avoir l'espèce de miroir face à nous, ça permet de tellement mieux se rendre compte de où ça bloque, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que je fais tout le temps, et en fait, ça me plaît pas et qu'il faut que je trouve une manière de ne plus le faire. Enfin, ça donne plein d'informations qu'on n'a pas si juste ça tourne en boucle dans notre tête. Donc, ouais, très cool. Moi aussi, c'est un challenge. Bah, c'est en tout cas, ça l'a été et ça continue d'être.
Mais voilà.
Cool, trop bien.
C'est surtout que comme je suis jamais passée en entreprise, j'ai jamais fait l'exercice, c'est d'être en réunion et de noter et de réfléchir ensemble. Et du coup, le fait de l'avoir jamais fait, je pense que ça m'a beaucoup bloqué aussi dans ma tête en me disant, bah non, on fait de juste pas réfléchir, quoi, de faire ce qu'on me disait de faire et de prendre le truc comme il venait. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi dans mon métier en m'organisant un peu mieux.
Intéressant. La question suivante, qui est nouvelle, que j'ai rajoutée pour cette saison, c'est quoi ton objectif du moment ? De manière très concrète, c'est quoi l'objectif sur lequel tu bosses en ce moment ?
Mon objectif, bah, comme je disais, c'était ne plus avoir de clients. Idéalement, et ne plus dépendre que d'un seul canal, quoi.
Ouais. J'adore comment tu l'as formulé. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, leur objectif, c'est trouver de nouveaux clients. Et toi, ton objectif, c'est ne plus avoir de clients. C'est l'inverse.
Non, mais dans le sens client, mission freelance, quoi. Vraiment, pour ne pas me méprendre en disant je ne peux plus rien faire et que ça tombe du ciel. Non, pas du tout.
Évidemment que pas. Et la question qui se cache derrière, parce que celle-ci, en vrai, elle en cache une autre, c'est de où ça vient à l'intérieur de toi, cet objectif ? C'est-à-dire, et on l'a un peu creusé, mais comme ça, tu vas pouvoir le reformuler, pourquoi c'est important pour toi, cet objectif, si on creuse plus sur un point émotionnel ?
Sur un point émotionnel, je pense que effectivement, quand on s'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça, et moi, si je m'imagine assise à mon bureau faisant toujours la même chose ou en faisant ce que je faisais il y a 3 ans, justement, de la mise en page, des choses qui ne me plaisaient pas du tout en graphisme, bah là, ça me fait stresser. Je me dis, mince, enfin, dans 10 ans, je ferai ça et j'attendrai impatiemment les vacances d'été pour pouvoir penser à autre chose. Enfin, non, j'ai trop vu mes parents ou des gens dans la famille, tout ça, ou des amis plus ou moins proches, être dans ce schéma de bah je trouve un job dans ma vingtaine et je le quitte quand j'ai 60-65 ans et après je profite. On a trop d'exemples maintenant autour de nous entre les bouquins de développement personnel, YouTube, Instagram et tout, avec des gens qui vivent vraiment leur vie rêvée dans le sens, je dis pas bosser à la plage 2 heures par jour, hein, je suis pas non plus dans cet objectif-là, mais de construire une activité qui me correspond à 100%, d'en tirer un salaire correct pour vivre et d'être tranquille après, parce que comme je disais, j'ai d'autres projets derrière et j'ai envie de me dire d'ici 5-10 ans, genre, ah bah je peux lancer ce que je veux ou je peux m'arrêter de bosser pendant 3 semaines, je vais prendre des vacances si j'ai envie et je vais avoir quand même de l'argent qui arrive et quand je reviendrai, j'aurai une activité qui va me motiver de ouf. Et moi, c'est plus ça, émotionnellement parlant, c'est ça.
Ouais, vraiment vivre et travailler selon tes propres codes et selon tes propres règles et que ça te ressemble, quoi. Ouais.
Ben, ce serait génial.
Cool. En tout cas, je sens quand t'en parles l'énergie de te dire c'est ça que j'ai envie de construire et je vois que ton énergie elle monte, donc c'est cool. Trop bien.
Ah, tu vois, c'est la même énergie que le lundi matin.
Exactement, comme on disait, trop bien. Et la dernière question, qui est une question où cette fois-ci on se tourne vers nos auditeurs et nos auditrices. Aurore, si tu avais une question que tu pouvais leur poser pour que cette semaine, toutes les personnes qui nous écoutent prennent un temps pour réfléchir à leur vie d'indépendant et leur business d'indépendant, c'est quoi la question ?
Alors, ça, c'est un peu ce que je dirais de toute manière, même si je devais le dire à mon frère ou à des amis très proches, c'est de vraiment faire la différence pour pouvoir se projeter, en tout cas dans son activité. Il faut faire la différence entre je suis freelance, je suis à la maison, c'est un hobby. Non, c'est pas un hobby. Et être un peu CEO, président de sa propre entreprise. En fait, comme je disais, j'ai eu du mal à me projeter dans mon travail, à savoir exactement ce que je voulais faire parce que je suis pas passée par la case entreprise. Après, du coup, ça pourra peut-être sembler plus facile à des gens qui sont passés par tout ce qui est travail en équipe, en entreprise, tout ça. C'est de se dire pourquoi je travaillerais plus ou mieux quand c'est pas mon entreprise et pas quand c'est la mienne. Donc, ça revient un peu à tout ce qu'on disait. Il y a quand on a commencé notre activité, qu'on testait un peu de trucs à droite à gauche et puis qu'on allait au café à 15 heures. Non. Si c'était en train de bosser pour quelqu'un d'autre, l'entreprise de quelqu'un d'autre, tu ferais jamais ça. Donc, pourquoi tu le fais pour ton entreprise à toi? Il faut que tu prennes les mêmes bases, les mêmes codes. T'es président de ton entreprise et c'est pas un hobby d'être freelance. Donc, vraiment de noter, de s'éduquer, de faire des formations. T'en as une entreprise, donc tu fais la même chose. Et vraiment d'avoir des objectifs à court terme, à long terme, pour savoir exactement où tu vas. Est-ce que tu fais ça?
Intéressant.
Et surtout dans les métiers créatifs où on a tendance à prendre le truc comme hobby, quoi. Donc, non, dans l'illustration, ce n'est pas qu'un hobby, c'est mon vrai métier. Et pour ça, il faut que je m'y mette. C'est une vraie entreprise, quoi.
Du coup, si on le formule en termes de questions, c'est pourquoi est-ce que tu traites ta propre entreprise moins bien que comme tu as traité l'entreprise des autres? C'est ça? Quelque chose sur ces ondes-là?
Plus ou moins, oui.
Reformule si tu veux, je te laisse reformuler.
C'est pas la moins bien la traiter, mais c'est lui donner moins d'importance. Pourquoi est-ce que tu donnes moins d'importance à ton entreprise, à toi? Parce que c'est toi, alors que tu mettrais plus d'importance si c'était l'entreprise de quelqu'un.
Trop bien, j'adore. Super. Ça va faire réfléchir pas mal de personnes, je crois. Excellent. Merci beaucoup, Aurore, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment cool de discuter. Et si certaines personnes veulent continuer de discuter avec toi, suivre ton travail, voir l'évolution de tout ce que tu vas faire en 2021, où est-ce que je les envoie pour te suivre?
Surtout sur Instagram, sur Instagram et sur YouTube. De toute façon, c'est le même nom, c'est Aurore Bay, B-A-Y, tout simplement. Okay. C'est facile.
Très bien, on va suivre l'aventure YouTube alors, ça va être cool. Chouette.
Ouais.
Encore merci Aurore et à très bientôt sur le podcast.
Merci beaucoup Thomas.
Ciao.
J'espère que ce regard dans les backstage de l'activité d'Aurore et un peu sur la mienne aussi, surtout en fin d'épisode, ça t'a aidé à réfléchir à ton activité et son évolution. J'adore vraiment ce mouvement de construire en public, qu'on retrouve beaucoup dans le monde anglophone, et que j'aimerais voir de plus en plus émerger en francophonie également. Je considère qu'on a vraiment tous beaucoup à gagner à partager nos avancées, nos apprentissages, nos expériences respectives, pour que tous ensemble, on puisse progresser et faire des pas en avant. Et du coup, j'espère que cet épisode pourra potentiellement t'inspirer à en faire autant avec ton business et ton aventure de freelance. En tout cas, de mon côté, je continuerai à partager ici et dans mes autres contenus ce que j'apprends sur le chemin pour que tu puisses toi aussi continuer de grandir dans ton activité et dans ta vie d'indépendant. Et si t'en veux plus, n'hésite surtout pas à rejoindre les abonnés de ma newsletter hebdomadaire sur thomasburbidge.com/newsletter. En tout cas, j'espère sincèrement que ce que je produis, ça t'aide d'une manière ou d'une autre. Et on continue l'aventure la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!